L'Empire du silence. Un entretien avec Thierry Michel et Luc Hinkenbrandt. L'Empire du silence est un film documentaire, un grand film, le fruit de long travail de Thierry Michel, le réalisateur belge qui a déjà réalisé 11 films en une trentaine d'années sur le Congo, des films qui ont fait du bruit pour certains, d'autres moins, et qui ont chacun vraiment une importance, de Mobutu, roi du Zaïre, à celui-ci, l'Empire du silence, en passant par l'homme qui répare les femmes, qui précède celui-ci d'ailleurs, puisque ça a trait dans les deux cas à l'est du Congo, et en l'occurrence au docteur Mukwege, le fameux gynécologue de l'est du Congo qui soigne les victimes de guerre et qui est devenu prix Nobel en 2018 et qui a remis sur la table ce qu'on appelle le rapport mapping, c'est-à-dire un rapport des Nations Unies qui parle des massacres qui ont été commis au Congo à partir de 1996, essentiellement jusqu'en 2002, mais qui ont ouvert la porte à l'impunité, on peut dire, et qui font qu'il y a toujours des massacres, des prédations dans l'est du Congo qui se perpétuent avec des influences internationales et notamment le rôle du Rwanda. Le rôle du Rwanda, de l'Ouganda et de certains chefs congolais qui sont déterminants dans le drame qui déchire le Congo depuis 1996. Donc c'est ce dont ce film parle, ce film se fait l'écho de ce drame, et c'est comme une dette, quoi. Il a vraiment une importance à ce niveau, au niveau vérité historique, et comme le dit le docteur Mukwege, sans vérité, il n'y a pas d'avenir dans la région des Grands Lacs. Donc voilà, tout ça fait suite au génocide qui s'est déroulé au Rwanda en 1994, quand les extrémistes Hutus, enracinés donc dans la majorité ethnique des Hutus, ont perpétré un génocide contre la minorité Tutsi, la minorité civile Tutsi de l'intérieur. Disons, pour faire simple, que les extrémistes Hutus se sont vengés de leur défaite face à la guérilla Tutsi contre les civils Tutsi qu'ils ont amalgamés à cette guérilla qui est désormais au pouvoir aujourd'hui et qui, elle, de son côté, a commis aussi des crimes de masse, mais qui ne sont toujours pas reconnus, des crimes de masse contre des civils Hutus avant, pendant et après le génocide. Et c'est après dont on va parler essentiellement avec Thierry Michel, surtout pour évoquer la trame de son film, donc L'Empire du silence. Et justement, parce que jusqu'à présent, cette histoire est restée sous le boisseau du silence, mais une des choses étonnantes, c'est qu'il y a des témoins qui ont le courage de parler dans ce film, qu'on retrouve des traces de fausses communes. Il y a d'ailleurs une course de vitesse à ce niveau. Mais voilà, on va retrouver maintenant Thierry Michel pour en parler plus précisément.
C'est ce qui m'a surpris, c'est que les temps ont changé, parce que jusque-là, les voix étaient étouffées par la peur, par la menace, par la répression. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, la parole s'est un peu libérée. Alors, si le film s'appelle L'Empire du silence, oui, parce que ces crimes sont méconnus. Ces archives, pour la plupart, sont méconnues. C'est l'histoire d'un pays qui est peu médiatisé. Autant on va parler abondamment de ce qui se passe en Irak, en Syrie, autant on va peu parler de ce qui se passe au fond des forêts congolaises. Parce que les autorités étouffent aussi toute cette page de l'histoire. D'ailleurs, le président Tshisekedi lui-même a dit qu'il ne fallait plus aller fouiner dans le passé. Or, Dieu sait si ce passé meurtrit toujours les consciences aujourd'hui, et les victimes, et les communautés. Et que si on ne fait pas ce travail de mémoire d'abord, et après de justice, mais c'est tout un débat dont on va sûrement parler, c'est difficile d'instaurer une paix véritable. Donc, voilà, mais j'ai été très surpris du courage de nombreux témoins, quand même, de dire ce qui s'était passé, et aussi quand même, c'est ça qui est nouveau, c'est de sortir de cette loi du tabou où on ne citait pas le nom des criminels. C'est très étrange au Congo, 25 ans après certains massacres, on n'ose pas encore citer le nom de criminel. Mais dans le film, quand même, pas mal de témoins ont eu ce courage de dire ces noms. Ces noms que d'ailleurs le docteur Mukwege, lors de son fameux discours où il a reçu le prix Nobel à Oslo, il a dit, il y a alors il a parlé d'un fameux rapport des Nations Unies, il y a un rapport qui moisit dans les tiroirs des Nations Unies, et il y a ces noms que personne n'ose dire. Lui-même n'osant pas le dire non plus, il faut dire qu'il est sous menace, qu'on a tué deux de ses proches, et pas des moindres, et donc ça s'explique très bien.
On voit d'ailleurs que c'est son établissement qui a été le premier attaqué au moment de l'arrivée des troupes rwandaises qui portaient le Kabila au pouvoir finalement pour renverser Mobutu en 2000.
Le début de la première guerre qui est 2006, le début de la déstabilisation absolue du Congo, c'est en effet en 96, l'arrivée des troupes appelée AFDL, Alliance des Forces Démocratiques de Libération du Congo, mais avec Kabila à la tête, mais en fait c'était un peu une potiche, parce que les troupes effectives étaient des troupes rwandaises qui venaient objectivement, enfin officiellement, avec le but d'éradiquer du Congo les camps de réfugiés où s'étaient cachés et se réorganiser des anciens génocidaires qui avaient œuvré au Rwanda et qui avaient fait ces centaines de milliers de victimes. Donc voilà, il y a une volonté du président Kagame, président du Rwanda, et du président Museveni, président de l'Ouganda, de dire, voilà, il y a des zones de menaces potentielles sur nos pays, à nos frontières, on va donc aller au Congo détruire ces camps et ces poches considérées comme des poches hostiles, de résistance hostile. Mais en fait, l'objectif était beaucoup plus important, puisqu'ils sont remontés jusqu'à Kinshasa pour faire tomber le régime de Mobutu et prendre le pouvoir. Et il est clair que cette prise du pouvoir, c'était aussi une forme de balkanisation du Congo et une forme d'appropriation et de tentative, qui a réussi d'ailleurs, de prédation des richesses du sous-sol, de cette richesse incommensurable du sous-sol congolais, surtout à l'est du Congo. Voilà, donc là, ça a été le début de la déstabilisation du Congo. Et alors, à partir de là, un processus se met en place qui ne va plus s'arrêter. Première guerre qui entraîne une deuxième guerre, parce qu'à un moment donné, le président Kabila, qui a été mis au pouvoir par ses occupants rwandais, va estimer qu'ils sont devenus indésirables et veut retrouver l'indépendance et l'autonomie du pays, et demande à ses amis qui l'ont permis de conquérir le pouvoir de rentrer gentiment dans leur pays, ce que les Rwandais ne vont pas accepter. Surtout qu'ils ont pris pied à l'est du Congo, où les richesses sont justement minières, principalement le coltan d'ailleurs, mais elles sont extrêmement importantes. Et va commencer la deuxième guerre du Congo, qui va être tout aussi meurtrière et avec des massacres aussi abominables
que la première guerre. Là, on touche plus des Congolais, alors que la première, c'était plus les réfugiés Hutus.
Absolument.
Au sein desquels se trouvaient des génocidaires, mais qui globalement étaient des civils qui étaient visés.
Oui, la première guerre, c'est l'extermination des populations Hutus en fuite qui vont traverser le Congo à pied à travers plus de 2000 kilomètres pour fuir ces massacres perpétrés par l'armée rwandaise jusqu'aux frontières nord du pays dans la ville de Mbandaka, grande ville capitale de province où ces forces étrangères vont exterminer les derniers réfugiés en fuite et après jeter les corps dans la rivière pour qu'il n'y ait plus aucune trace de leur forfait. Voilà, oui, ça c'était... Et la deuxième guerre devient une guerre vraiment d'occupation, mais avec, comme on dit normalement, des Congolais qui vont supporter les occupants, les collabos si on veut. Et voilà, elle va durer 2 ans. Elle va s'étendre là sur une très grande partie du pays. Voilà, et après, malgré des accords de paix, vont continuer à proliférer des groupes armés qui se sont multipliés quasi à l'infini et qui vont s'étendre dans même des provinces qui n'étaient pas les principales provinces touchées par la guerre. Et c'est pour ça que mon film se termine par la crise au Kasaï, une autre grande province diamantifère du Congo, où il va avoir une violence redoutable et des massacres perpétrés, entre autres, par les forces de sécurité, armées et police, qui vont générer, entre autres, selon les Nations Unies, une petite centaine de fosses communes. Mmh. Et c'est en enquêtant, d'ailleurs, au Kasaï sur ces massacres, que deux experts des Nations Unies, un Américain et une Suédoise, vont être tués. Ce qui va évidemment bouleverser la communauté internationale, parce qu'ils représentaient les Nations Unies, ils étaient même en enquête pour le Conseil de sécurité. Donc tout d'un coup, on avait massacré des Blancs. Et comme vous le savez, deux Blancs pèsent autant que 100 000 Africains dans ces relations internationales. Dans le rapport de force. Et donc là, ça a ébranlé totalement la communauté internationale.
Oui, voilà. Là, c'est aussi l'histoire, en fait, qui est visée. La mémoire, l'histoire, parce que le tabou, c'est d'essayer d'empêcher d'avoir accès aux traces qui pourraient confirmer la réalité de ces massacres parmi les plus graves massacres qui ont eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale sur la planète, quoi.
Oui, oui, oui. C'est une évidente ces questions des fosses communes et des preuves de ces massacres revient d'ailleurs à plusieurs reprises dans le film. C'est clair que là, il y a l'embryon d'une future justice nationale ou internationale, parce que là, on a les preuves.
Ouais.
C'est pas par hasard que tout un chapitre du film est consacré sur cette pression, cette intimidation qui est faite dans la ville de Mandaka sur les gens de la Croix-Rouge, pour aller déterrer les corps et les jeter dans le fleuve, pour qu'aucune enquête ultérieure ne puisse avoir la certitude qu'il y avait eu ces massacres. Et le film se termine quasi sur cet assassinat de deux experts des Nations Unies qui étaient aussi en train d'aller à la recherche et d'essayer de lister ces fosses communes au Qatar. C'est bien la preuve que aujourd'hui, si on veut entamer un processus judiciaire, un processus de justice, il faut préserver les preuves et ces fosses communes sont déterminantes. Et je vois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, des groupes de jeunes à l'est du Congo ont été posés des balises sur les lieux de où sont enterrés de nombreux corps pour essayer d'honorer la mémoire et surtout pour essayer qu'on ne les déterre pas, tout simplement.
Ouais. Oui, là, ça, c'est intéressant. C'est un des aspects du film aussi qui est impressionnant. C'est le courage, la dignité de beaucoup de Congolais qui savent que, ben, comme le disait Mukwege aussi à son discours, sans vérité, il n'y a pas d'avenir, quoi. Et qui prennent des risques et voire qui résistent aussi aux sollicitations, parce que c'est la pression est à la fois par la répression et par la séduction.
Et la corruption.
La corruption, voilà. Donc refuser une grosse somme d'argent quand on n'a pas beaucoup de moyens, il faut aussi avoir un sacré caractère.
Une morale en béton. Oui, ouais. C'est vrai que ce sont des... Je crois que j'ai pu trouver, lors de ce tournage, des héros du quotidien, quoi. Des gens sans nom, sans grade, voilà, mais qui ont une éthique personnelle et qui ne peuvent pas accepter ces pratiques, qui ne peuvent pas accepter... Et les intimidations et la corruption. Et ça, c'est ce qui donne espoir. Mmh. Et je dirais que parmi tous ceux-là, il y en a un qui est évidemment très connu, mais quand même, quel beau personnage, c'est le docteur Mukwege, qui mérite bien son prix Nobel, parce que d'une part, il fait preuve d'une empathie absolue vis-à-vis des victimes, qu'il n'arrête pas de réparer en tant que chirurgien, principalement des femmes violées avec destruction de l'appareil génital, ce qui veut dire dans quel niveau de barbarie on est, mais qui a fait preuve, évidemment, malgré l'assassinat de ses proches et les menaces qui pèsent sur lui, il y a encore eu des campagnes invraisemblables, même des campagnes qui étaient le prix Nobel de la honte, des pétitions pour qu'il enlève son prix Nobel. Les assassins ne restent pas inactifs, bien sûr, qui travaillent dans la coulisse, mais voilà, il continue son plaidoyer avec énormément de courage, de dignité, de force, de charisme, de présence. Donc voilà, ces gens-là sont toute la fierté de ce grand pays.
Oui, d'ailleurs, concomitamment avec la sortie du film, il y a la sortie du livre de Denis Mukwege, qui est aussi bouleversant. Quoi. La force des femmes, c'est... On n'en ressort pas indemne.
Oui.
Oui, La force des femmes, on ne saurait trop vous recommander le dernier ouvrage du docteur Mukwege qui parle de son itinéraire, de ce drame à l'est du Congo et qui universalise avec la cause des femmes en général à travers le monde. Et c'est très, très éclairant et vraiment bouleversant comme histoire qui n'est pas terminée. Donc on évoque cette guerre au Congo, à l'est du Congo, menée par l'armée rwandaise victorieuse ex-guérilla Tutsi, par le général Kagame, avec aussi des Ougandais à un moment donné et des chefs congolais. Hein. C'est quand même en gros cette triade qui est responsable de graves crimes de masse entre 1996 et début des années 2000-2002 en gros. Et qui au départ, donc, sous prétexte de chasser des génocidaires Hutus, en réalité très vite avait pour but de changer le pouvoir au Zaïre et de perpétrer tout un système de prédation à l'est du Congo, puisque c'est un endroit très riche, notamment avec des minerais, doubles minerais comme le coltan, avec lequel on fait les portables dans le monde entier. On retrouve Thierry Michel. Et ce qui est intéressant, enfin ce qui est intéressant, ce qu'on remarque finalement, c'est que la violence prend son élan et qu'après elle se détache de son sens premier, quoi. C'est-à-dire bon, il y a cette métastase issue de la guerre du Rwanda qui déchire le Congo, et puis après on voit qu'en fait la violence est un mode de prédation qui se diffuse, qui s'autonomise. Avec finalement une multitude d'acteurs, et c'est là que ça devient un espèce de cancer, quoi.
Oui, tout à fait. Bon, on peut dire au début, première guerre, géostratégique, quoi. C'est éradiquer des camps où sont supposés agir les anciens génocidaires. Donc c'est un pays qui se défend contre une force armée qu'il estime menaçante. À partir de là, on entre dans des guerres pour l'accaparement des richesses du pays, le pouvoir, mais évidemment pour accéder aux richesses. Et puis, il y a un délitement de toute morale, de tout état de droit, de toute éthique, de toute référence. Et alors, c'est vrai, et le film évolue sur cette route-là, de montrer que ce délitement, tout d'un coup, ramène l'être humain à des instincts les plus bas et les plus barbares, sans plus aucune balise, à commettre des actes que les animaux ne commettraient pas entre eux. Dont certains qu'on n'a pas voulu montrer dans le film, parce qu'ils étaient absolument insupportables. Insupportables, quand on voit une séquence qui n'est pas dans le film, je préviens les spectateurs, mais d'une femme commerçante, simplement, dont des rebelles armés soupçonnent qu'elle aurait fait manger de la viande à des rebelles. Or, on ne doit pas manger de viande avant d'aller au combat parce que ça altère, pense-t-il, dans la pensée magique, ça altère la combativité et l'immunité. Et l'immunité, le fait qu'il soit invulnérable. C'est des croyances, évidemment. Mais à partir de là, cette femme commerçante soit dénudée, obligée d'être violée en public par son beau-fils avant d'être décapitée. Ça, au milieu de plus d'une centaine de spectateurs filmant tous avec leur téléphone portable, ça atteint un niveau d'ignominie et d'insupportabilité absolue. Donc voilà, et là on se demande, c'est vrai que ça interroge, quoi. Ça interroge sur l'être humain. Et dans le même temps, heureusement, on voit dans la même région, d'ailleurs, le Kasaï, où il y a eu des populations extrêmement meurtries, et meurtries aussi d'une répression militaire qui est venue dans les villages en faisant du porte-à-porte, en massacrant les enfants, les femmes, les vieillards. Mais on voit que cette population, aujourd'hui, s'est réorganisé de manière solidaire. Il y a une vraie force collective qui s'est organisée, revendique ses droits. A été soutenu, et ça c'est exemplaire aussi, par un collectif d'avocats et par le barreau de Kananga, qui est une grande capitale de province, et que cette dynamique fait qu'ils ont obligé finalement les forces militaires, alors que c'était elles qui étaient responsables de ces massacres, de faire des investigations, de récolter les témoignages, et de commencer un processus de justice. Donc voilà, il y a aujourd'hui, on dirait presque que c'est paradoxal, mais dans la région qui a été la plus meurtrie, que aujourd'hui, une conscience collective a émergé. Oui. Et ça, j'avais déjà vu à l'est du Congo, dans les villages aussi, où il y avait des viols collectifs de femmes, et on voit que là, il y avait une prise de conscience telle, une maturation, et que de gens, de victimes, finalement, devenaient parfois des résistants. Et ça, c'est quand même une belle leçon de vie aussi.
Ouais. Et donc, Thierry Michel, votre film, L'Empire du silence, il accompagne cette évolution. Alors, je ne sais pas si on est au début d'un moment, d'un progrès et d'une nécessité historique sur ce drame congolais, mais il y a plusieurs choses qui convergent. Donc, il fait écho à cette réaction citoyenne congolaise. Il correspond aussi à l'époque où le coup de gueule du prix Nobel Mukwege ne peut pas être neutralisé si facilement. Et donc, on est quand même 10 ans après le rapport Mapping, qui a finalement été assez vite enterré, même s'il y a un avant et un après rapport Mapping, qui est évident, parce que c'est un travail énorme qui a été fait. On ne peut pas l'effacer par une ardoir magique.
Le rapport Mapping, c'est très intéressant, parce que les Nations Unies ont quand même mis sur pied une équipe d'enquêteurs pour faire un répertoire, un catalogue des massacres qui se sont produits pendant 10 ans, donc de 1993 à 2003. Ils ont répertorié, et ce n'est pas une liste exhaustive, mais 617 massacres qu'on peut cataloguer de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire crimes de génocide. Donc ce rapport est une pièce maîtresse, évidemment, de tout dispositif de suite judiciaire. Mais, comme vous dites, il a été mis sous le boisseau. Il a été classé un peu sans suite, pour des raisons qu'on peut comprendre, parfois aussi géopolitiques, en disant, oui, mais ce rapport met en exergue la responsabilité d'armées étrangères qui sont intervenues au Congo. Et donc, voilà, c'est délicat parce que ça va indisposer, finalement, plusieurs chefs d'État africains, qui ont indéniablement du sang sur les mains. Bien, et la deuxième chose, c'est que le rapport avait été expurgé du nom des criminels. On savait les lieux, les dates, le nombre de victimes, le modus vivendi du massacre, c'est très détaillé, mais on ne savait pas qui avait fait ces meurtres. Sauf que les Nations Unies, les experts à l'époque, avaient listé ces présumés coupables, ces présumés criminels, et avaient fait une base de données complémentaire au rapport Mapping, qui existe dans les tiroirs des Nations Unies. Alors là, ça pose une question. Parce qu'on parle donc de crimes qui sont produits à 25 ans, et les noms des criminels sont toujours, aujourd'hui, non révélés. Il y a une omerta sur... Voilà, c'est inimaginable, parce que si on compare à d'autres grands massacres, est-ce que les massacres que les nazis auraient fait pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les années 40, est-ce que à la fin des années 60, on pouvait ou pas dire qui a opéré ces massacres ? Bien sûr que oui. Comment est-ce possible que dans un grand pays africain, le plus grand pays en plus francophone, vous êtes francophone, un pays francophone du monde par sa superficie et sa population, on ne puisse pas révéler le nom de ces présumés criminels ? Voilà, ça c'est une question centrale que le docteur a bien mis sur la table pour sortir de cet empire du silence, de cette loi du silence. Et je pense que le film s'inscrit dans ce mouvement général. Aujourd'hui, je ne dirais pas le peuple congolais, parce que le peuple congolais est désinformé et n'a pas eu accès à toutes ces données, mais enfin, voilà, des franges de la société congolaise veulent connaître la vérité sur leur histoire. Et veulent qu'on éradique ces violences endémiques et que la justice puisse se mettre enfin en marche. Donc oui, il y a le plaidoyer du docteur, il y a le plaidoyer d'organisations humanitaires, il y a ce film qui, à mon avis, va être un outil extraordinaire de prise de conscience, de travail de mémoire, et va permettre d'aller plus loin dans ces investigations, je pense. Il y a une campagne, parce que le film, on a fait le film, mais en même temps, avec différentes organisations, de grandes organisations humanitaires de par le monde, comme l'Amnesty International, la FIDH, Amnesty International et bien d'autres. Nous allons mener une campagne sur le thème « Justice for Congo », qui est complémentaire au film et qui va vulgariser beaucoup de notions. Qu'est-ce que c'est un tribunal pénal international ? Quelle est la différence avec la Cour pénale internationale ? Qu'est-ce que c'est la justice transitionnelle ? Qu'est-ce que sont des tribunaux mixtes ? Voilà, toutes des notions extrêmement importantes. Et essayer de toucher un public le plus large. D'ailleurs, cette campagne va commencer par une fausse publicité où on fait la publicité d'un nouveau modèle de téléphone portable. Mais en fait, il est taché de sang, du sang des victimes. Donc voilà, pour faire une prise de conscience salutaire pour les Occidentaux. Mais surtout, il va donner tous des axes sur la question des fosses communes, par exemple. Il y aura, parce que c'est une campagne qui va se faire de manière par les réseaux sociaux, mais avec du matériel audiovisuel. C'est toutes des petites séquences pédagogiques réalisées avec des experts de ces questions-là, mais dans la vulgarisation la plus évidente. On fera aussi appel à des ambassadeurs, des personnalités reconnues pour participer à cette campagne Justice for Congo. Le but, c'est évidemment d'arriver à la mise sur pied de ces tribunaux qu'on appelle tribunaux mixtes au Congo. Pourquoi mixtes ? La justice congolaise ne peut pas être vraiment indépendante, puisque actuellement, une partie de ces présumés criminels sont vraiment au pouvoir, au plus haut niveau.
D'ailleurs, Thierry Michel, on peut ajouter, on a parlé de, comment dire, la violence pour la conquête, de la violence pour la prédation. On pourrait parler de la violence pour la promotion, parce que c'est une des choses qu'on comprend dans cette histoire et dans le film, c'est que la violence peut être une carte pour obtenir un poste, pour obtenir du pouvoir.
Oui, tout à fait. Ou est instrumentalisée par des politiciens. Je crois qu'il y a encore des zones aujourd'hui de violence endémique, de massacre. Quand on dit de massacre, c'est presque tous les mois ou toutes les semaines. Donc, pour déstabiliser et qui sont instrumentalisés ou par des pays voisins, qui ont tout intérêt à avoir une déstabilisation du Congo, entre autres pour y effectuer la prédation de richesses, ou par des politiciens locaux qui surfent là-dessus, ou par des généraux à qui ça sert aussi de non seulement d'acquérir du pouvoir, mais de piller les richesses, tout simplement. Oui.
Et cette campagne, donc, elle est concomitante avec le film ?
Oui, elle accompagne le film, elle précède même le film, parce qu'ici il y a une avant-première, mais bon, maintenant commence la diffusion du film au niveau international, sorti en Belgique, sorti en France, et sorti dans de nombreux pays de par le monde, africains.
Donc ça devrait circuler au cours de l'année 2022,
oui,
en gros.
Oui, alors la campagne pour le moment va être plus focalisée sur la Belgique pour des raisons économiques. Malheureusement, cette campagne coûte. On ne fait pas... du travail de réalisation et de production de clips, de trucs audiovisuels. On ne fait pas une campagne non plus, parce que cette campagne veut aller au-delà des réseaux sociaux militants. Donc il faut cibler, donc il faut absolument... Il y a une agence de type publicité qui va cibler, en achetant d'ailleurs des espaces pour promouvoir cette campagne. Donc essayez que monsieur tout le monde puisse être sensible à cette question, qui nous concerne tous. C'est d'ailleurs le but du premier clip, qui nous concerne tous, parce que nous avons tous un ordinateur, un téléphone portable, une tablette, et que les minerais qu'il y a dedans sont en partie des minerais qui viennent de ces zones de guerre endémiques à l'est du Congo.
Donc on comprend la perspective quand on découvre l'étendue de ces massacres, la nécessaire mise sur pied d'un tribunal pénal international qu'on ne cesse d'attendre et que de plus en plus de gens ne cessent de demander. par exemple à travers cette campagne dont parle Thierry Michel, Justice for Congo. Et on va retrouver maintenant quelqu'un qui a contribué à tout ce travail, y compris au niveau des Nations Unies, du rapport Mapping, c'est Luc Enquimbrant, qui est un Belge, qui était longtemps directeur d'Amnesty International Belgique et qui était longtemps aussi au bureau des droits de l'homme des Nations Unies. Vous êtes belge et impliqué dans Amnesty International depuis longtemps et vous êtes dans ce film qui sort et qu'on va voir au cours de l'année 2022 consacré au Congo et notamment aux drames qui ont eu lieu au Congo dans la deuxième moitié des années 90 à partir de 96 qui font écho au rapport Mapping. Et vous êtes interviewé dans ce film qui met à jour, qui met sur la table des crimes qui ont été faits il y a longtemps pourtant.
Oui, j'ai été en partie en initiative de l'exercice de mapping, c'est-à-dire d'inventaire et de cartographie des crimes commis par différents belligérants dans les conflits qui ont secoué la RDC dans les années 90 principalement. En tant que chargé de la lutte contre l'impunité et de la justice transitionnelle dans le Bureau des droits de l'homme de la mission des Nations Unies. Hein? Et donc le film, de fait, parle beaucoup, à travers d'ailleurs la bouche du docteur Mukwege, du prix Nobel de la paix, de ce fameux rapport Mapping, qui a été initié donc vers 2006 et qui a été publié en 2010 et qui fait l'inventaire, de fait, le triste inventaire tragique, hein, des multiples crimes de masse qui ont été commis essentiellement pendant les deux guerres qu'a connues la RDC.
Donc la première après le génocide au Rwanda, voilà. Qui consistait officiellement dans un premier temps à chasser des génocidaires Hutus qui s'étaient implantés au Congo de la part de la nouvelle armée rwandaise de l'ancienne guérilla Tutsi de Paul Kagame. Et puis très vite on a vu qu'il s'agissait de prédation et que finalement c'est une grande majorité de civils qui ont été touchés, alors on ne sait pas le nombre de morts. Et puis la deuxième guerre, c'est plus au moment où il y a eu la rupture entre Kabila, qui avait été porté au pouvoir par cette première offensive, et le Rwanda, que finalement c'est surtout des Congolais qui ont été touchés. Donc dans un premier temps, des réfugiés ou tout, dans un deuxième temps, des Congolais.
Des Congolais. Et oui, exactement. Le film « L'Empire du silence » montre bien cela, hein, avec des images terribles de cette traque des génocidaires, mais qui s'est en réalité transformé aussi en une traque et une extermination des civils, des réfugiés, ou tout, femmes, enfants, vieillards, etc., qui soit ont été tantôt massacrés, soit empêchés de recevoir l'aide humanitaire, hein, ce qui est un crime de guerre.
Il y a eu beaucoup de morts indirectes aussi.
Et il y a beaucoup de morts indirectes, mais c'est qualifié par les conventions de Genève, par exemple, hein, l'interruption, enfin, ou le blocage, hein, des secours humanitaires est constitutif de crimes de guerre. Et ce qui est terrible pour cette période, c'est que le rapport Mapping examine tous ces... Un massacre, c'est des centaines, hein, d'incidents, comme dit le rapport. Et il va jusqu'à dire que ces faits, là je cite presque de mémoire, ces faits-là, hein, présentés devant un tribunal indépendant, pourraient être qualifiés de génocide par ce tribunal. Donc, le rapport Mapping examine si les éléments constitutifs du crime de génocide sont rassemblés, et l'élément essentiel, c'est l'intention d'extermination, hein, d'un groupe racial, ethnique, religieux, national, etc. Et il donne plusieurs arguments en faveur de cela, mais il a aussi l'objectivité de donner les arguments contraires, qui ont été évidemment avancés par le régime rwandais.
Par exemple, notamment le fait que théoriquement, officiellement, les réfugiés hutus en question, donc qui avaient fui dans la forêt congolaise, pouvaient revenir au Rwanda. Et que c'est parce qu'ils revenaient pas au Rwanda qu'ils étaient estimés être hostiles, que donc ça favorisait leur traque.
Oui, ben, c'est en fait un argument qui sera, si ça la vient devant un tribunal indépendant, sera certainement avancé, mais ce retour-là, il a quand même été forcé. Hein, quand on vous bombarde dans les camps, etc., et que vous avez le choix entre vous enfoncer dans la forêt vierge congolaise ou rentrer chez vous, malgré la peur que ces gens éprouvaient, parce que s'ils ne sont pas rentrés dans les années précédentes, c'est parce qu'ils savaient qu'à l'intérieur du Rwanda, il y avait eu beaucoup de leurs, je vais dire, co-religionnaires, enfin de, beaucoup de Hutus, hein, qui avaient été victimes dans les années précédentes, hein, y compris en 95 à Kibeho. Hein, plusieurs milliers de Hutus qui vivaient dans un camp là-bas ont été éliminés. Les Nations Unies même étaient présentes et ont pu témoigner de ça. Alors ça peut expliquer la réticence des centaines de milliers de Hutus qui se trouvaient à l'est de retourner dans un pays où ils savent que leur sécurité est loin d'être assurée. Quoi.
Le nombre, on a du mal aussi à avoir une idée. On sait que c'est des centaines de milliers finalement. Après, il y a des chiffres faramineux qui sont avancés, mais c'est en tout cas énorme sans qu'on sache précisément.
Oui, il y a de fait beaucoup de chiffres avancés. Le plus fréquemment dans tout ce que j'ai pu lire, hein, sur des recherches ou des enquêtes ou des rapports qui ont été faits, hein, ça tourne au minimum autour de 200 000. Hein, mais ce sera vraiment très compliqué d'en faire le décompte. Un des moyens, ce serait de devoir ouvrir des dizaines ou même des centaines de fosses communes qui contiennent ces corps. Chose qui est demandée de plus en plus souvent par aussi le docteur Mukwege, par le prix Nobel. Et quand vous ouvrez une fosse commune, ça vous permet de faire sortir aussi la vérité. Hein? Parce que dans une fosse commune, vous pouvez nous permettre de voir, ça vous permet de voir qui est dedans. Si vous n'en retirez que des corps de femmes, d'enfants, de vieillards, hein? Et ça, on peut le savoir par les techniques modernes, hein, de l'ADN notamment, etc. Hein, et que vous n'en retirez, par exemple, quasiment aucun corps d'homme, adulte, avec des marques de balles tirées ou d'éclats au but. Vous pouvez voir que ceux qui sont là-dedans ne sont pas des combattants morts au combat, hein, mais des civils, hein, qui ont été justement des victimes soit de massacres ou soit qui ont péri en masse par la maladie et la faim, etc., parce que l'aide humanitaire ne leur arrivait pas et qu'elle avait été bloquée. À ce moment-là, c'est automatiquement, évidemment, vous avez la preuve d'un crime de guerre, hein, et vous avez... si d'autres éléments sont réunis, comme le dit le rapport Mapping, vous pouvez émettre l'hypothèse d'une intention d'extermination du groupe ethnique en tout ou en partie. Ici, c'est évidemment en partie, etc. Et donc, c'est pour ça que beaucoup parlent du rapport Mapping. Les mots que on entend maintenant presque le plus souvent, y compris suite au film de Thierry Michel, hein, c'est explosif, un rapport explosif ou une bombe, parce que ce rapport et le film qui le vulgarise en quelque sorte, hein, met à jour, hein, met en lumière énormément de choses que les gens ignorent et que l'opinion publique a ignoré pendant des années. Quoi.
Ce qu'il a de particulièrement gênant aussi, Luc Encarbrand, c'est qu'il a un côté iconoclaste dans le sens où il met en cause une image qui jusqu'alors était plutôt idéalisée de Paul Kagame, de la direction du FPR, qui passait plutôt pour des héros par ailleurs, puisqu'ils passent pour ceux qui ont arrêté le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc du coup, ça rend encore plus difficile la mise en cause.
Oui, bien sûr. Bon, c'est ça qui a peut-être aussi bloqué pendant des années, ou qui a produit cet aveuglement, ou ce silence, hein, comme le dit le titre du film, cet empire du silence. C'est que, de fait, ça, tout ça remet en question cette image, fait un peu tomber un bon nombre de dirigeants de tous ces pays, que ce soit au Congo, en Ouganda et surtout au Rwanda, ça les fait tomber de leur piédestal. Hein, et du coup...
On pourrait peut-être dire de leur piédestal, puisque ça peut rappeler la période stalinienne, c'est-à-dire Staline passant pour celui qui avait arrêté le nazisme, et pendant longtemps, par exemple au procès de Kravchenko, pour ceux qui connaissent cette histoire, eh bien on se servait de cette image de Staline pour le rendre intouchable.
Oui. Oui, on peut faire de fait la comparaison, et on a eu à propos de ces guerres, à propos du Rwanda, hein, depuis le génocide, on a eu un narratif, hein, donc une histoire officielle, hein, du génocide et de la suite du génocide, un peu dictée évidemment par les vainqueurs, par le régime qui a pris le pouvoir, et tout cela risque d'être aussi remis en question par le film de Thierry Michel et par une plus grande vulgarisation du rapport Mapping, par une prise en compte réelle du rapport Mapping, hein, puisque inévitablement, la question va se poser pour beaucoup. Si tant de crimes reconnus par les Nations Unies, hein, inscrits dans un rapport de l'instance spécialisée des Nations Unies en matière de droits de l'homme, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, si tout cela commis en 96, 97 pendant la Première Guerre, et puis encore pendant 4 années après, de 2008 à 2002, 2003, durant cette deuxième guerre, est bien vrai, se pose la question, mais est-ce que ces gens qui ont commis au minimum ces crimes de guerre et au pire peut-être même un génocide ont-ils les mains propres pour les périodes et les années qui ont précédé? Et ça risque...
précéder le génocide des Tutsis déclenché en avril 1994.
Oui. Oui, puisque bien sûr, un certain nombre d'historiens, de rapports, etc., ont montré que les années 90 à 94 n'ont pas été... voilà, que pendant ces années de guerre civile, comme on dit, hein, s'il y a eu guerre civile, ça veut dire qu'il y a eu offensive venant de l'Ouganda, hein, de l'armée qui à ce moment-là s'appelait le Front Patriotique Rwandais, le FPR, et ces incursions qui en réalité avaient peut-être principalement pour but de permettre de reprendre le pouvoir, hein, n'ont pas été sans casse. Hein, il y a eu des milliers de Hutus qui ont été tués, massacrés pendant ces années-là, plus d'un demi-million ont dû quitter leur maison et ont dû être déplacés par la force au sud du Rwanda, etc.
Ce qui ne disculpe pas pour autant les extrémistes Hutus, puisque certains très tôt avaient à l'esprit une volonté anti-Tutsi si jamais justement ceux-ci gagnaient du terrain en quelque sorte, alors qu'ils étaient en situation discriminée pour une bonne partie d'entre eux.
Oui, bien sûr. Justement, le problème est que ces attaques et ces crimes de masse commis ont alimenté la radicalisation et ont facilité la pénétration du discours des extrémistes Hutus et qui ont alors été amenés à lancer ce génocide et à le faire s'accomplir à partir du 7 avril. S'il n'y avait pas eu, si cette guerre civile n'avait pas existé, s'il y avait eu continuation de négociations, d'accords, comme c'était d'ailleurs en partie le cas, puisqu'il y a eu des accords d'Arusha, etc., qui donnaient une grande place au front patriotique rwandais dans les instances gouvernementales, dans l'armée, etc. Il y avait donc des pas, il y avait tout un processus pacifique en cours, mais qui a été finalement un peu brisé par ces attaques répétées et aussi par l'attentat sur l'avion.
Contre l'ancien président, le 6 avril 1994.
Biarimana, et dont on ne sait justement toujours pas qui l'a commis. Certains disant que c'est le FPR, d'autres disant que ce n'est pas le FPR, que c'est les extrémistes Hutus. Et donc, le film va inévitablement ramener l'attention sur toute cette période, elle va amener à ouvrir les yeux de beaucoup de monde sur ce qui s'est passé au Congo, et par conséquence aussi sur ce qui s'est passé au Rwanda, puisque
et oui, tout ça est très gênant, donc on voit toujours à travers ce que révèle le film L'Empire du Silence, le rapport mapping, les déclarations du docteur Mukwege, tout ce qu'on entend un petit peu plus, ce qui sort un peu du silence, on entend la nécessité d'un tribunal pénal international, mais on voit aussi que ça peut ramener encore précédemment à ce qui s'est passé au Rwanda, puisqu'il y a eu aussi une stratégie de la tension qui n'excuse en rien la première responsabilité qui est celle des extrémistes Hutus qui ont perpétré le génocide de 1994, mais qui ont pu gagner de l'importance, arriver au centre de gravité aussi parce que la montée des tensions à laquelle la guérilla Tutsi a ardemment participé, ça a contribué à pouvoir les mettre en place également. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une complexité de l'histoire qu'on soupçonne peu par rapport à ce qu'on dit en général. Mais après, bon, voilà, c'est un peu une histoire de spécialiste. Malheureusement, c'est peu connu au niveau grand public. Et on va revenir maintenant sur l'approche générale de Thierry Michel du Congo, puisque c'est 30 ans de travail, c'est une histoire fantastique et on revient, on termine ainsi cette émission avec l'histoire d'amour, on pourrait dire, de Thierry Michel avec le Congo.
Et alors au Congo, j'étais en fait exactement à la fin 91 pour filmer à la date du 4 décembre le dernier jour de mandat du président Mobutu, qui avait accepté le partage du pouvoir, la fin de la dictature. Il avait pris le pouvoir en 65, donc ça faisait un fameux bail. Et je voulais incarner, par le cinéma, ce moment historique où un pays africain allait renaître de ses cendres et de sa dictature. Mais malheureusement, les dictateurs ont beaucoup de subterfuges possibles et une perversité incroyable. Et pour garder le pouvoir, il a lancé ses militaires dans les rues pour faire un pillage de toute pillage de toutes les structures, pillage des maisons, des individus, pillage des commerces, pillage des entreprises. Donc il a instauré un chaos généralisé, ce qui lui a permis de rester au pouvoir. Et il est resté, donc j'avais fait un premier film qui s'appelait Le cycle du serpent, et qui était un peu un portrait de la nomenclatura de Mobutu. J'avais quand même filmé le chef d'état-major des armées, général Maëlé, les deux chefs spirituels pro-Mobutu de l'époque, le cardinal Letsu et son éminence Dangyenda, chef spirituel de l'église Kimbangis, qui est une église chrétienne noire, et j'avais filmé le patron des patrons, Bemba Saolona. Tous sont des gens qui étaient de la même ethnie que le président, à l'exception de Dangyenda. Mais voilà. Mais le président est resté, et donc j'ai voulu continuer. J'ai fait un deuxième film, Les Derniers Colons, qui m'a valu, que je n'ai pas pu réaliser, mais quand même, j'ai quand même fait un film. Parce que j'ai été arrêté en début de film, mais j'avais déjà suffisamment de matière pour faire finalement un documentaire qui était sur la présence de ces Blancs qui restaient dans le chaos généralisé malgré tout. Tout le monde avait fui. Prenons les Belges, 110 000 Belges, il en restait 3 000. Mais il restait des missionnaires, quelques hommes d'affaires, des diplomates, enfin voilà. Il restait quelques personnalités flamboyantes sur qui j'ai fait ce film. Mais j'ai été arrêté. Pourquoi ? Parce que j'avais fait Le cycle du serpent qui avait énormément déplu au président et à ses affidés.
Et l'arrestation, ça a duré combien de temps, là ?
2 jours. Alors, heureusement que les ambassades ont très vite obtenu mon expulsion, parce que le processus judiciaire était en marche, et j'étais bien, c'était acté, accusé d'espionnage, enfin, d'intelligence, le terme exact, intelligence, pour l'activité suspecte et intelligence pour le compte d'une puissance étrangère. Et j'aurais dû être dans un processus qui risquait de m'amener pour de nombreux mois, voire des années, dans la fameuse prison de Makala, comme un collègue journaliste belge avait vécu quelques années plus tôt. Il avait été condamné à 10 ans. Il avait quand même passé 8 mois dans cette prison, qui est un enfer et un mouroir. Mais bon, là, on a réussi à obtenir mon expulsion. J'ai plus pu retourner au Congo, évidemment. J'avais peut-être la chance que je représentais des grands médias, dont Arte en France et la RTBF. Donc voilà, je n'étais pas un journaliste freelance, comme vous l'êtes un peu, fragile. Non, là, tout de suite, les grandes ambassades se sont mis en branle, dont les États-Unis. J'étais interdit à ce moment-là, mais j'ai fait le film Mobutu, roi du Zaïre, et j'ai pu retourner au Congo, parce que le président Mobutu a dû fuir son pays. C'était le 17 mai 97, et un samedi, et le jeudi suivant, j'arrivais avec tous les honneurs, puisque j'avais été, soi-disant, proche de l'opposition, en tout cas que mes films avaient aidé l'opposition congolaise à faire chuter le dictateur. Bon, et j'ai terminé Mobutu, roi du Zaïre, qui a une carrière international exceptionnel. Et en Afrique, je pense que c'est un des films qui, en salle, à l'époque, il y avait encore les grandes salles de cinéma en Afrique, qui a cartonné dans toutes les grandes salles d'Afrique, des plus petits pays comme le Burkina, où il a fait presque 100 000 entrées, aux grands pays comme évidemment le Cameroun, le Congo, l'Afrique du Sud, etc. Là-dessus, c'est vrai que j'ai continué mon parcours congolais en disant, je viens de faire un film sur 40 années d'histoire à travers le portrait flamboyant, shakespearien, d'un grand prince machiavélien, Mobutu, roi du Zaïre. Maintenant, je voudrais connaître ce pays davantage. Je vais y aller par la géographie, même si c'était une géographie politique. Et donc, j'ai engagé un film d'envergure, Congo River, qui me faisait remonter le fleuve avec mon équipe, de l'embouchure dans le fleuve jusque la source, qui est 4370 km plus loin, voyage de 6 mois, dans un pays qui était encore balkanisé par la guerre. Donc on passait d'une région rebelle à une autre région rebelle. Dans les régions rebelles, il y avait les résistants rebelles. Enfin, c'était une aventure assez extraordinaire. Voilà, et on a immortalisé la grandeur, la beauté, ce fleuve, l'histoire, parce que c'est un film qui fait ressac avec beaucoup d'archives, dont des archives coloniales. À travers la remontée du fleuve, on remonte dans l'histoire, et dans l'histoire coloniale, là j'ai vraiment retrouvé des perles du cinéma colonial. Et voilà, puis après ce film-là, qui se termine à la source dans la région très industrialisée du Katanga, voilà, où il y a des richesses minières essentielles aux technologies du monde, occidentale ou asiatique d'ailleurs, les Occidentaux et les Asiatiques se faisant la guerre pour l'accaparement de ces richesses au Katanga. J'ai fait ce film sur la guerre économique pour les richesses du Katanga et une guerre sociale parce qu'évidemment, les travailleurs des multinationales comme les creuseurs artisanaux sont évidemment en butte et subissaient une répression parfois d'une violence extrême qui rappelait les épisodes, on va dire, du début de la révolution industrielle chez nous, où il y avait aussi ces grandes grèves et ces organisations, les prémices de ces organisations des travailleurs. Voilà, donc ça c'était Katanga Business. Puis j'aurais pu avoir fini le cycle, mais il y a eu un événement non programmé, imprévu, l'assassinat de Floribert Chebeya, un ami, fondateur des organisations droits de l'homme au Congo, d'ailleurs qui avait travaillé dans la clandestinité à l'époque Mobutu, et qui était camouflé en sordide crime sexuel. On a retrouvé son corps abandonné à 30 km de Kinshasa au bord d'une route avec des cheveux de femme, des préservatifs, des ongles, enfin. Je n'y avais absolument pas cru. J'ai voulu aller au Congo d'abord pour participer à l'enterrement, rendre mes condoléances à la famille. Et puis j'ai compris que là, cela cachait un crime d'État et qu'il s'agissait de faire un film. Et donc j'ai commencé un film qui m'a embarqué à suivre le procès qui a duré un an.
Et la réalisation du film, elle a été possible ? Il devait y avoir beaucoup de filatures.
La réalisation a été possible et je dois dire que c'est grâce aux magistrats militaires. Malgré une tentative du ministère de la Justice d'essayer d'empêcher le tournage, les magistrats militaires ont manœuvré habilement. Ils avaient besoin d'une présence d'une caméra. J'étais la seule caméra étrangère, on va dire, blanche, internationale. Et oui, tout à fait. Et j'ai pu réaliser ce film sur un procès un peu bidonné. Hein. Ils n'ont pas pu aller au bout de ce procès. Il y avait des lignes rouges, il y avait des interdits. Le principal protagoniste de cet assassinat supposé était exempt de poursuites judiciaires. C'était le général John Numbi, mais comme il avait 3 étoiles et qu'on ne peut être jugé par une cour militaire que par un gradé égal ou supérieur et qu'il n'y en avait pas, il était à la tête des forces de police. Il n'a pas pu être poursuivi.
C'était à partir de là, est-ce que le mobile est apparu alors assez clairement ?
Il fallait éliminer une voix dissidente qui contestait. Il allait sortir des dossiers chauds, oui, sur des massacres. Justement, on revient à la question de ces massacres impunis. Oui, et il allait les sortir sans doute juste avant les fêtes du 50e anniversaire de l'indépendance pour lequel étaient conviés les plus grandes personnalités du monde. Le roi des Belges était invité, des présidents de nombreux pays africains. Donc voilà, ça allait profondément dispenser. Il appelait d'ailleurs au boycott de cette journée d'anniversaire. Donc voilà. Et donc j'ai fait ce film, l'affaire Chebeya, un crime d'État. J'ai fait en plus un film à ce moment-là, j'ai voulu retourner au Katanga où j'avais fait le film précédent, parce que un des personnages que j'avais filmé dans Katanga Business, c'était un homme d'affaires richissime, on va dire un Berlusconi africain pour résumer, patron de clubs de football, patron de médias, extrêmement populiste, qui avait une base électorale fondamentale, qui peut mobiliser les gens par le jeu, par l'argent, par tous les moyens démocratiques. Ce n'était pas un apprenti dictateur. Et il avait fait beaucoup de promesses, il avait été élu gouverneur du Katanga, et je voulais voir justement comment un pouvoir populiste pouvait perdurer. Et j'ai été sur les lieux où j'avais fait le film précédent, Katanga Business, voir s'il avait réalisé ses promesses, ce qui n'était pas vraiment le cas, évidemment. Et j'ai fait un film, L'irrésistible ascension de Moïse Katumbi, d'autant plus que je percevais qu'il avait des ambitions présidentielles. Ce qui s'est révélé par la suite, voilà, sauf qu'il a été victime, on va dire, du régime Kabila, il a dû fuir, on a voulu l'arrêter, il est parti en exil, on a essayé de l'empoisonner, enfin, toute une histoire, voilà. Mais j'avais fait ce film-là, et puis il y a eu la rencontre avec le docteur, qui est venu du fait que le docteur avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat, on avait assassiné un de ses proches à sa place. Il a fui, s'est réfugié en Belgique avec sa famille, qui avait été prise en otage d'ailleurs. Je l'ai rencontré et j'ai perçu la grandeur de ce personnage, quel charisme, et de ce docteur qui soignait des femmes violées dans ces guerres atroces qui duraient déjà depuis une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années. Plus d'une dizaine d'années, 15 ans. Voilà, et c'est à partir de là que de cette rencontre qui s'est faite à Paris, j'ai décidé avec Colette Drachmann, une collègue journaliste, de faire un film sur le docteur, qui est devenu L'homme qui répare les femmes.
Merci à tous ces interlocuteurs, à Luc Enquimbran et Thierry Michel. Ça a donné vraiment une émission très dense par rapport à ce travail à contre-courant qui est réalisé, dont la dernière touche est L'Empire du silence. Donc on ne saurait trop vous recommander d'aller voir ce film, même si l'humeur générale n'est pas drôle, même si on est peut-être saturé de drame. Mais là, il y a vraiment un besoin de justice et de vérité. C'était L'Empire du silence, un entretien avec Thierry Michel et Luc Enquimbran.